Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Et pour entamer cette deuxième heure avec un tout petit peu de retard, on s'en excuse, ce club IMO nous passionnait. C'est Henri Tassot qui nous attend chez Ports en Part. Bonjour Henri. Merci d'être au rendez-vous ce matin. Bon, on s'est pris à rêver, on va dire, dans les 45 premières minutes. Et puis finalement, on s'est dit, non, on va attendre prudemment la Fed.
Oui, effectivement, il y a quand même beaucoup de statistiques à venir. Les premières que l'on reçoit aujourd'hui étaient également importantes pour l'Europe, avec l'indice des manufacturiers en Europe qui s'améliore graduellement. Donc voilà, ça c'est plutôt des éléments de... positif, mais malgré tout, voilà, il y a l'inflation qui doit arriver. Cet après-midi, les PMI manufacturiers aux États-Unis aussi, et puis la Fed ce soir. Donc voilà, beaucoup de rendez-vous quand même. On est sur un marché qui est un peu dans l'attente quand on voit les volumes d'échanges qui sont relativement étroits aujourd'hui. On est au-dessus des 520 millions d'euros, un peu au-dessus de ça. Donc voilà, c'est quand même assez étroit, beaucoup d'expectatives.
Du coup, on se focalise peut-être sur quelques dossiers. Et vous aviez envie, vous, d'éclairer ce matin De Richbourg et Bonduelle. On commence par De Richbourg ?
Volontiers. Alors, en fait, voilà, comment est-ce que ces sociétés de taille moyenne reçoivent en fait le contexte macro que l'on a, avec évidemment beaucoup d'inflation. Et bien sûr, De Richbourg, ce qui a marqué cette période, c'est... un impact sur la demande finale, notamment c'est l'inflation des coûts énergétiques qui a touché la demande des clients sidérurgistes qui sont plutôt sur la filière électrique. Et bien là, voilà, c'est une publication, comme l'avait annoncé d'ailleurs la société, donc peu de surprises là-dessus. Un premier trimestre qui était en baisse en termes de volume, et également aussi en termes de prix, avec des métaux qui était en baisse de l'ordre de 14% pour le non ferreux, 12% pour les ferriers. Enfin voilà, un environnement plutôt difficile. En revanche, des perspectives qui, elles, s'améliorent et voilà, des tendances qui semblent montrer que la demande revient avec à la faveur notamment de la détente sur les prix d'énergie, hein, et puis les besoins aussi en ferraille qui sont assez importants sur des zones phares comme la Turquie, par exemple. Voilà, donc une demande qui se réanime. Et donc, c'est probablement cet outlook positif, en fait, hein, qui pousse aujourd'hui la valeur, hein, qui est en hausse de plus de 3,5%, mm-hmm. avec des ratios de valorisation qui sont toujours très, très accessibles.
En D'accord. Fait. Voilà. Donc, hein? Voilà pour le cas de Richbourg. Un mot de Bonduelle également, c'est une publication, là?
Ah, publication, chiffre d'affaires semestriel, qui est de plutôt de très bonne facture, en fait. On a une croissance à deux chiffres sur le publié et puis une croissance organique à change constant et à périmètre constant qui est de l'ordre de un peu plus de 6% et qui, comme ça, facialement, est très intéressante. Et quand on se penche un petit peu plus sur les choses, on s'aperçoit que cette croissance, elle est essentiellement tirée par les hausses de prix que l'industriel a réussi à passer au final à ses clients, à la grande distribution notamment. Et là, en fait, on sait qu'on est dans un contexte inflationniste qui se poursuit, qui se prolonge, et toute la question est de savoir si à la fois la demande finale va tenir. Ça, c'est une question que pour l'instant la société ne peut pas trancher. Est-ce que la grande distribution va accepter à nouveau des hausses de prix de la part de Bonduelle. Donc, toutes ces questions-là, en fait, mettent en question le la guidance, en fait, les prévisions que la société avait initialement livrées au marché, hein, une croissance, je vous rappelle, du chiffre d'affaires de l'ordre de 8 à 11% et une marge opérationnelle de 2,5%. Bah, pour l'instant, en fait, on ne sait pas si on pourra tenir ces éléments-là. Donc, il va falloir attendre un petit peu pour que la société, finalement, tranche sur le sujet. Bon, cela dit, vu la valorisation, effectivement, de Bonduelle, mm-hmm. on voit que la publication, cette croissance qui est affichée, rassure un petit peu les investisseurs et on est malgré tout en croissance de l'ordre de 1,8% au moment où on échange.
Merci beaucoup Henri. Henri Tassot, donc pour Zempart qui nous accompagnait ce matin. Tout de suite, toute l'info éco avec Stéphanie Collo.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, c'est la riposte européenne au plan anti-inflation américain. Bruxelles présente sa feuille de route en début d'après-midi. Objectif, faciliter les aides d'État pour soutenir la transition verte de l'industrie européenne menacée par les 400 milliards de dollars de subventions américaines. Les propositions seront débattues lors d'un sommet dans une dizaine de jours à Bruxelles avant des décisions en mars. Écoutez Valérie Ayer, la porte-parole du groupe Renew au Parlement européen. Elle était l'invitée de Good Morning Business ce matin.
Il faut qu'on aide nos industries. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? Nos industries, elles vont aller aux États-Unis. C'est une réalité. Il y a déjà des annonces qui ont été faites par des entreprises.
Ah oui, Northvolt, Solvay.
Exactement, Northvolt. Un exemple très concret. Northvolt, spécialiste suédois des batteries, avait un projet de gigafactory en Allemagne. L'Allemagne ne proposait que 150 millions d'euros d'aide. Les États-Unis proposent entre 600 à 8 millions de dollars d'aide. C'est ça la différence. Et donc, évidemment, ces entreprises, elles ont déjà annoncé qu'elles abandonnaient leurs projets en Europe ou qu'elles les mettaient sur pause pour aller aux États-Unis.
L'Union européenne où 12% des voitures vendues en 2022 étaient des véhicules électriques. Les ventes ont augmenté de 28% par rapport à 2021 à plus d'1 million d'unités vendues, un record selon l'Association des constructeurs. En France, les immatriculations de voitures neuves sont en hausse de 8,8%. En janvier sur un an, ça représente près de 112 000 véhicules particuliers selon la plateforme de l'automobile. Stellantis recule de 9,5% sur un an. En revanche, le groupe Renault bondit de plus de 23% grâce notamment à la performance de Dacia dont les ventes grimpent de 55%. C'est officiel, la Caisse des dépôts prend le contrôle d'Orpea avec plus de 50% du capital. Un accord de principe avec les créancier prévoit d'effacer 3,8 milliards d'euros de dettes en la convertissant en capital. 1,5 milliard d'euros vont aussi être injectés. Au chapitre des résultats d'entreprise, on a Bonduelle qui fait état de ventes en hausse de 13% au premier semestre à 1,2 milliard d'euros porté par la hausse des prix en Europe. Mais le groupe se montre prudent pour le reste de l'année. Aux États-Unis, le fabricant de semi-conducteurs AMD publie un chiffre d'affaires en hausse de 16% au quatrième trimestre à 5,6 milliards de dollars. C'est au-dessus des attentes. Mais le groupe anticipe des ventes en baisse sur le trimestre en cours. Et puis, c'est une publication de mauvais augure pour les géants de la tech, même si Snap continue de gagner des utilisateurs au quatrième trimestre. Ils sont 975 millions à utiliser le réseau social quotidiennement, plus 17% sur un an. Le chiffre d'affaires, lui, stagne à 1,3 milliard de dollars et Snap accuse une perte nette de 288 millions d'euros. On attend ce soir après bourse les trimestriels de Meta avant ceux de Alphabet, Amazon et Apple demain.
Merci beaucoup Stéphanie Collo pour l'info éco chaque heure sur l'antenne ce matin. Tout de suite, on ouvre Regard Croisé.
BFM Business, BFM Patrimoine, Regard Croisé.
Regard Croisé qui accueille ce matin Hortense Lacroix et Sandrine Covin. Bonjour mesdames.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Hortense pour Financière Arbevel, Sandrine pour OTA Capital. Déjà, les marchés voient-ils trop la vie en rose? Alors, je vous limite pas au CAC, parce que sinon vous allez me dire oui, mais c'est que le luxe, et puis c'est un indice régional, etc. Non, par exemple, le SPI, il est quasiment sur un de ses meilleurs mois de janvier depuis le début du siècle. Donc, c'est pas rien. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'on a trop le moral, Hortense?
C'est un démarrage en fanfare, effectivement, ouais. Pour le marché action. C'est pas que le CAC. Autant c'était effectivement une remarque qu'on pouvait faire sur l'année 2022. Autant sur ce mois de janvier 2023, le plus 10 est assez bien réparti dans les indices européens, du moins, parce que les États-Unis sont évidemment pas du tout sur ces tendances-là. Alors certes, on était sur des scénarios qui étaient quand même extrêmement négatifs aussi à la fin de 2022. Tout le monde voyait une récession arriver. On voyait des ajustements qui devaient se faire sur les résultats. Un consommateur et des entreprises qui étaient impactées par une crise énergétique. on a quand même des chiffres effectivement de début d'année qui justifient en partie ce changement de pied, puisque la résilience quand même du consommateur européen a été remarquable. Les chiffres qu'on a en PIB, en publication de PIB sur les derniers jours, montrent qu'effectivement les plans mis en place par les États pour compenser cette augmentation du prix du gaz a eu un effet tout à fait intéressant. Donc le consommateur est au rendez-vous et les industriels ont l'air d'avoir plus ou moins maintenu leur marge. Reste à passer sur les prochains mois le test des publications annuelles
et surtout, commence là,
et surtout des guidance 2023 qui risquent d'être prudentes et de refroidir un petit peu peut-être l'ambiance.
La vie en rose, trop en rose
En tout cas, c'est allé très vite. Ça, c'est clair. Sur un mois, plus 10%, c'est très rapide.
Fermer la boutique, là, finalement, l'année
mais
est faite.
C'est ce que disait Hortense. on voyait les choses encore il y a quelques mois très en noir. Et puis, il y a des éléments, notamment un atterrissage en douceur de l'économie et puis un ralentissement de l'inflation. Là aussi, il va falloir surveiller les chiffres parce que cette semaine, on a eu les chiffres d'inflation en Espagne et en Italie et on voyait que ça repartait légèrement à la hausse. Donc, est-ce qu'on est vraiment complètement sûr qu'on est tranquille de ce côté-là ? C'est pas certain. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne résilience par rapport à ce qui avait été prévu. Puis on a échappé quand même le pire. En Europe, faut le dire, sur la crise énergétique, on a eu la chance d'avoir un hiver qui est relativement doux, même s'il n'est pas complètement... Il y a quand même quelques pics par moment de froid. On a ça et on a, il faut le dire, des remises en route de centrales nucléaires qui sont venues aider et l'aide des énergies renouvelables. Il y avait un article hier qui parlait justement du fait que le solaire et l'éolien ont contribué à venir faire augmenter la production d'électricité. Donc ça veut dire que les choses vont aussi dans le bon sens sur les choses qui sont mises en place pour la transition énergétique.
Alors c'est vrai que maintenant on regarde vraiment devant et on se demande si tout ça va bien se confirmer. Alors oui, du côté du FMI, mais bon, certains mettent en doute parfois les prévisions du FMI. Et puis on a nos banques centrales. Là aussi, les marchés, eux, jouent le fait que le pivot est proche et que même si on remonte encore ces quelques heures prochaines, ce sera les derniers feux et que 2023 verra l'inversion de la tendance. Absolument. Qu'est-ce que vous vous dites là-dessus ?
Alors, on se dit que on a un chiffre un peu fétiche chez Herbevel qu'on regarde, c'est que quand on regarde les cycles historiques de resserrement monétaire, alors on a l'historique évidemment que sur les États-Unis puisque la BCE est encore récente, les cycles de resserrement monétaire prennent fin en général sur des taux d'intérêt réels à 2%. Ce qui veut dire que après les 50 BP de hausse qui sont attendus par la Fed cette semaine, la Fed arrive à un taux à peu près à 4,60. On est très proche du 5, ce qui serait effectivement le point d'arrivée, à condition qu'on arrive effectivement à ramener l'inflation à 2%.
Donc, c'est ça, oui.
Le juge final sera bien la capacité ou non à avoir une inflation un peu en baisse. Alors, il y a des indicateurs quand même intéressants de ce point de vue sur les premières publications.
Donc, en fait, c'est la neutralité du taux réel qui est importante.
Absolument. Alors, évidemment, le taux réel actuellement, la partie inflation est très importante. Il ne s'agit pas de faire un glissement 12 mois sur des chiffres qui sont ponctuellement élevés et d'essayer de voir un petit peu où sera l'atterrissage. Il est compliqué à ce stade d'envisager un atterrissage à 2% compte tenu des tendances qu'on voit actuellement, même si, comme je voulais le souligner, effectivement, on a par exemple les chiffres de Caterpillar et de McDonald's aux États-Unis qui ont publié, qui montrent qu'elles arrivent un petit peu en essoufflement de ce qu'elles sont capables de passer comme hausse de prix, ce qui marquerait effectivement peut-être un début de ralentissement.
Mais donc pour le moment, en tout cas, c'est bye-bye le pivot, quoi. On n'a pas encore...
Pour l'instant, on a du mal à penser qu'on est déjà sur un pivot. En revanche, le marché achète toujours les bonnes nouvelles marginales et le ralentissement des hausses, c'est-à-dire qu'au départ, on a augmenté de 75 points de base, ensuite de 50 points de base. On nous annonce peut-être que le trimestre prochain sera plutôt sur 25 points de base. Donc déjà, cette diminution marginale de la cette décélération de la hausse de taux est déjà en soi une bonne nouvelle qui permet déjà de considérer que les banques centrales voient arriver le point d'atterrissage.
Le travail est achevé pour les banques centrales justement ou pas encore
Non, voilà. Il n'est pas achevé. Je pense qu'ils le disent tous dans leur discours. Et surtout, justement, sur la première question que vous nous avez posée sur la hausse des marchés, la hausse des marchés va, à mon avis, plutôt avoir tendance à ce que les banquiers centraux, dans leur discours, soient plutôt au quiche. Faut plutôt s'attendre à des... Moi, je m'attends... Mais alors, par contre, sur le rythme...
Ils veulent vraiment calmer les ardeurs.
Oui, je pense qu'ils vont continuer. Faut quand même se rappeler qu'ils étaient en retard. Hein. Ils n'avaient pas anticipé... Il y a encore un an, ils disaient que c'était transitoire et ils ont mis un peu de temps. Ils sont en retard justement par rapport au précédent cycle. Ils ont du retard, donc ils sont allés très vite. Et aujourd'hui, effectivement, ils vont ralentir. Mais c'est pas du tout. Enfin, là, le marché, ce qu'on lit un peu dans les consensus, c'est que en mars, la Fed devrait avoir atteint son point haut autour de 5% et devrait arrêter les hausses. Mais après, derrière, combien de temps ils vont rester sur ces niveaux-là? Il y a pas mal d'acteurs de marché qui pensent qu'il pourrait y avoir des baisses même avant la fin de 2023. Pour la BCE, on pense que le haut serait atteint en juin, juillet. Mais là, pareil, combien de temps ça va durer? Il va vraiment falloir surveiller de près les chiffres au niveau de l'inflation, parce que là, on est effectivement très loin de l'objectif des banquiers centraux à 2%. Et puis, on en a déjà parlé. Est-ce que c'est réaliste, ce 2%? Dans le monde dans lequel on est actuellement.
Ouais, c'est vrai qu'il y a cette question-là, mais bon, souvent on dit on traitera ça après.
Oui.
On va attendre que ça se stabilise, oui. Et quand on aura vu le niveau de croisière de l'inflation, on se demandera s'il faut ajuster le tir. C'est quelque chose que vous estimez aussi raisonnable de faire ça.
L'inflation, de toute façon. Enfin, je pense que tous les acteurs sont quand même en consensus. Il n'y a rien de pire qu'une inflation qui est non maîtrisée. On l'a vu au début de 2022, les entreprises augmentent leurs prix, mais elles courent derrière des hausses de coûts. Finalement, il est impossible pour personne de faire des prévisions économiques correctes, et encore moins pour les marchés financiers qui essaient de mettre une valeur sur tout ça, dans un environnement déstabilisé. Donc, on a tous intérêt quand même à ce que les banques centrales reprennent la main et arrivent à stabiliser cette inflation. Après, 2, 2,5, on leur laisse faire leur travail.
Bon, n'empêche que quand je vous disais, est-ce qu'on est arrivé au bout, enfin, est-ce que le travail est achevé? C'était aussi une façon de se dire qui va gagner entre les banques et puis disons singulièrement la Fed, puisqu'on a moins d'historique sur l'action de la BCE. Qui va gagner entre la Fed et les marchés? Est-ce qu'on dit qu'il ne faut pas se battre contre la Fed? Ça, c'est une maxime traditionnelle sur les marchés. Malgré tout, là, il y a un peu un combat, un bras de fer entre le marché qui dit, moi, de toute façon, c'est ce que je disais, je parie sur une baisse de taux dans les mois qui viennent, et la Fed qui dit, non, on n'y croyait pas trop. Qui va gagner? La Fed ou les marchés?
On remarque quand même qu'à chaque fois, les marchés rebondissent sur des choses qui sont positives, en pensant que derrière, justement, ça va faire que les banquiers centraux vont arrêter leur politique restrictive. Ça, j'y crois pas, parce que comme Hortense vient de le dire, il faut vraiment la priorité, quitte à aller un peu trop loin, la priorité, c'est vraiment de casser cette inflation. Et donc, je pense que c'est malheureusement, en tout cas là à court terme, je pense que c'est les banquiers centraux qui vont gagner, parce qu'ils vont continuer de marteler un discours assez dur et qui va venir à chaque fois calmer les ardeurs des marchés. Et la question derrière, sous-jacente, c'est qu'on a le sentiment qu'on veut à tout prix éviter une récession. Mais est-ce que le passage par la récession n'est pas aussi un passage un peu... Alors, je ne parle pas d'une grosse récession, forcément, mais le ralentissement économique, notamment aux États-Unis, où on avait une économie qui était quand même en surchauffe, avec tous les plans d'aide qu'il y a eu, bon, même en Europe, la sortie du Covid a vraiment mis une surchauffe. Mais aux États-Unis, vous avez toujours, malgré quelques ralentissements qu'on commence à avoir, notamment du côté de l'immobilier, on voit un marché de l'emploi qui est extrêmement solide, et malgré les coupes d'effectifs que vous voyez dans le secteur de la tech, on voit que du côté de l'emploi, ça reste très très solide. Donc il y a toujours cette inquiétude sur le salaire, les salaires. Qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là?
À votre avis, avec le micro, sera toujours mieux. Hortense, à votre avis, la Fed ou les marchés? On lèvera le point de qui à la fin?
La Fed a de toute façon intérêt à tenir une rhétorique extrêmement ferme. Et c'est notre intérêt à nous, marché également. Donc je ne suis pas sûre que finalement il y ait une telle opposition à faire entre les deux. le discours sera certainement au quiche encore au moins jusqu'à l'été, mais j'ai envie de dire quelque part, ça a été un petit peu aussi, en tout cas à court terme, il n'y a plus cette, il y a plus cette dichotomie qu'on avait en fin de 2022 sur les points intermédiaires où le marché n'était pas en consensus sur les prochaines étapes. Les prochaines étapes, là, on a la chance d'avoir une belle visibilité. La BCE a communiqué de façon assez claire, ce sera 50 BP et le marché l'attend de façon quasiment 100% consensuelle. Et du côté de la Fed, on a aussi une visibilité. Donc, les prochaines étapes sont assez claires. D'où pourrait venir la mauvaise nouvelle et le ralentissement, effectivement, avec un discours assez au quiche. Mais finalement, ils l'ont déjà tenu la dernière fois, le discours assez au quiche. Donc, je pense que encore une fois, la fin de la partie sera sifflée par les chiffres d'inflation dans 3-6 mois.
Voilà donc pour ces grandes questions conjoncturelles. Les marchés maintenant, parce qu'on a jasé un petit peu en début sur leur entame de partie, mais qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant? Parce qu'effectivement, il y a les résultats qui battent leur plein, et puis alors il y a les marchés actions, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le marché obligataire, ça avait été assez inédit en 2022. C'est plus normal, on va dire, en ce début d'année 2023. Du coup, comment on arbitre un peu, comment on construit une allocation? Quelle est la bonne allocation selon vous, Sandrine?
Alors, c'est vrai que ça devient plus compliqué pour les marchés actions, on va pas se mentir, parce que quand on a du 3 ou 4% sur des marchés obligataires, ça rentre complètement en concurrence avec les marchés actions ou sur les dividendes.
C'est terminé, Tina est définitivement enterré.
Donc là, ça se complique un peu. Cela dit, on a quand même aujourd'hui des valorisations des marchés, quand bien même, là, on parlait d'une hausse de 10%, c'est allé vite, mais on partait de points, notamment si je pense à l'Europe, de valorisation qui était faible, alors qu'on a eu toute une année où on a eu un discours plutôt négatif et que dans les publications de résultats, on a vu qu'il y avait une très bonne résilience, les sociétés continuaient toujours de publier de bons résultats avec des progressions de marge et qu'on pense que même si effectivement là, dans les premières publications qui arrivent, on sent un petit peu plus de prudence, des guidance qui sont un peu fragiles, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guidance vraiment fixe. On est des guidance sur des fourchettes un peu larges. On veut pas trop. Alors il n'y a pas encore eu trop de publications. Aux États-Unis, il y en a eu un peu plus, mais on sent qu'aux États-Unis, il y a un peu moins, il y a un peu plus de mauvaises surprises sur les résultats qu'en Europe. On voit que les marges commencent à être attaquées. On voit aussi que la croissance est en train de s'essouffler. Et là, c'est. Je pense que du coup, du côté des entreprises européennes, il y a peut-être plus d'opportunités. Surtout sur des secteurs, des sociétés en particulier. Je pense notamment, on va revenir sur les petites capitalisations, mais qui traversent plutôt bien les choses dans cette crise et qui si elles arrivent...
Oui, qui n'avaient pas été très, très bien aimées en bourse.
Hein. Voilà, et qui pourraient retrouver de l'attrait en 2023.
Chez Financière Arbevel, comment on voit les choses? Quel potentiel on donne au marché actions? Comment on considère le marché obligataire? Parce que vous aviez quand même au cœur de la tourmente pas mal axé votre stratégie sur le portage aussi. Enfin...
Absolument, toujours. Et toujours, on pense que ce sera une très très belle année aussi en termes obligataires. Ça, c'est... Les taux sont revenus à un niveau qui permettent à l'investisseur d'être payé pour attendre, ce qui est complètement nouveau. On était quand même dans une espèce d'hystérie avec ces taux négatifs à vraiment pas savoir quoi faire. Donc, comme vous disiez, c'était l'effet Tina, il fallait absolument... il y avait une espèce d'obligation à se mettre sur les actions. Donc certainement un flux attiré par des produits obligataires, notamment les produits datés qui ont pu attraper un petit peu les pics d'inflation et donc capter des taux, figer des taux extrêmement intéressants. Mais on pense aussi qu'il reste de la place pour des performances actions. Alors c'est le 10% est évidemment... quelque chose qui ne s'annualise pas et évidemment on risque
d'avoir... Sinon là on ferme Financière Arbevel, on part en vacances et on vient se voir le 2 janvier 2024.
Absolument. On a effectivement les petites valeurs qui sont, je pense, extrêmement en retard. On a quand même eu depuis quasiment, depuis 7 ans, de façon certaine, une sous-performance très forte de cette classe d'actifs. L'année dernière, on était effectivement dans un scénario récessionniste, guerre, l'Europe était devenue pays émergent pour les Américains, c'était vraiment non investissable. Et dans ces cas-là, évidemment, vous avez une aversion pour le risque qui fait que plus la capitalisation boursière est petite, plus vous mettez de décote et de primes de risque. Donc c'est une classe d'actifs qui a été matraquée l'année dernière, et curieusement, quand on desserre le risque en ce début d'année, on n'observe pas de rattrapage des petites et moyennes valeurs. Donc on pense que là, il y a encore un réservoir de valeurs très intéressant.
Et qu'est-ce qui pourrait déclencher un mouvement de reprise du coup? Juste la sous-valorisation?
La non-récession quelque part. Parce que d'accord. Tout ça est pricé comme si c'était un risque effectivement de retour à une crise façon 2008-2009. Or, finalement, les sociétés traversent la crise relativement bien. Alors, je pense qu'il faut s'attendre effectivement à des guidances assez prudentes, et on ne pourra pas en vouloir aux sociétés compte tenu du nombre de variables qu'elles ont à gérer. Et je pense qu'il est difficile de sortir d'une phase de resserrement monétaire sans avoir ce qu'on voit actuellement sur cette saison de publication aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand même où, puisque justement on arrive au terme de l'inflation, les hausses de prix ont du mal à passer côté consommateur, et il y a forcément des acteurs qui se font pincer en termes de marge.
Voilà donc quelques idées à avoir autour de ces marchés et de leurs évolutions. Merci à toutes les deux.
Merci,
d'être venues dans Regards Croisés ce matin. Donc Hortense Lacroix pour Financière Arbevel et Sandrine Covin pour OTA Capital. Dans un instant, on regardera techniquement ce qu'il faut penser de cette tendance assez hésitante de l'indice CAC 40. C'est Gilles Zantacreux que l'on retrouvera chez Bourse et Côté. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Et on entame cette dernière demi-heure de BFM Patrimoine par notre traditionnel point technique de 11h30. C'est Gilles Santacreux depuis boursicoté.com qui nous accompagne ce matin. Merci Gilles d'être au contact du marché pour le décrypter. Bon, effectivement, depuis, on va dire, 9h45 tout à l'heure, on s'est installé, posé sur le niveau de clôture d'hier soir, et un coup au-dessus, un coup en dessous, on ne s'en éloigne guère.
Oui, exactement. Il y a un chiffre pour ce matin, 13 points. 13 points, c'est l'amplitude que nous avons depuis 9h45. C'est-à-dire qu'on oscille grossièrement entre 7090 et 7077 points. Donc on est vraiment dans une phase d'attente. Pourtant, on a eu les chiffres de l'inflation en zone euro qui auraient pu provoquer de la volatilité, puisqu'on attendait 9% d'inflation en rythme annuel. On est tombé à 8,5%. Même les inflations core que l'on attendait à 5,4%, eh bien, sont ressorties à 5,2%. Cela aurait pu, je dirais, influencer ce marché, c'est-à-dire lui donner un petit peu de boost pour anticiper justement un soft landing au niveau des taux des principales banques centrales, et notamment de la BCE, hein, qui diffusera demain. Mais pas du tout, on n'a rien du tout, rien du tout. Donc on est vraiment dans une posture d'attente. C'est même à se demander si les statistiques de cet après-midi auront un retentissement tant on est vraiment dans cette phase d'attente. Alors, on le voit sur les indices européens, on le voit aussi sur les indices américains, mais on le voit aussi sur les monnaies. On voit une perte de devise euro-dollar qui est toujours sous sa zone des 1.09 depuis aussi quelques jours. La livre sterling sous les 1.24. On a l'or qui a pour l'instant stoppé son mouvement haussier et qui a du mal à rejoindre la zone d'objectif fixée à 1960 $ l'once. Un pétrole qui, malgré une petite remontée, reste autour des $80. Même le bitcoin, qui avait donné une belle impulsion, reste bloqué autour des $23,000 pour un bitcoin. Donc on est vraiment dans une posture d'attente. Alors qu'on a des volumes, on a dépassé les 600 millions, on a des chiffres qui pourraient faire bouger les marchés, mais le marché ne bouge pas. Donc c'est vraiment les taux de la Fed ce soir et donc la conférence de presse du FOMC qui devrait débrider les marchés. Si ce n'était pas le cas, les banques centrales d'Angleterre et européennes pourraient continuer, je dirais, le processus. Mais pour l'instant, on est vraiment dans une totale zone d'attente, donc toujours les mêmes zones d'alerte. 7110-15 pour la hausse, 7015 pour un éventuel repositionnement à la baisse donc sur l'indice CAC 40, mais globalement, aucun changement, malgré donc des chiffres de l'inflation qui confirment le ralentissement et qui confirme le fait que l'on pourrait déjà avoir atteint le pic, et tout en ayant évité donc la récession, ce qui favorise le scénario global d'un atterrissage en douceur de l'économie malgré les hausses de taux des principales banques centrales.
Merci beaucoup, Gilles. Gilles Santacreux, donc, pour boursicoté.com, le marché parisien, qui grignote 0,03%, 7084 points du côté des devises. L'eurodoll est à 1,0886.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Quelle allocation privilégiée en ce début d'année et quel regard porté sur l'année boursière 2022? L'éclairage apporté il y a quelques jours par Géraldine Métifeux pour Alter Egal.
Bon, le t'es pourri, très clair, hein, globalement.
Vous voulez être moins négatif, mais bon.
Bah, c'est-à-dire que l'année a été négative, hein, quand même. Ouais. Et sur toute classe d'actifs confondus. Donc ouais. Là, il y en avait quand même à peu près pour.
Bon, donc elle a été pourrie.
Tout le monde. Ouais, elle a été très pourrie et plus sur les valeurs de croissance et plus sur la tech. Hein, le Nasdaq perdait presque 34% en 2022, alors que sur les indices plus larges du S&P ou le CAC 40, on est plutôt autour de moins 10. Donc, mais. Malheureusement, pour l'essentiel des épargnants et des clients, ils avaient quand même beaucoup de valeur de croissance et de tech. Donc, ouais. On a un peu le sentiment d'avoir plus perdu que l'indice. Mais ce n'est pas qu'un sentiment, c'est parfois la réalité.
Donc. Bon. Donc ça, c'est le bilan 2022. Du coup, comment est-ce qu'on se projette un petit peu? C'est ça dont on a besoin de vous pour.
Oui, tout à fait.
Pour voir devant.
Et regardons devant. 2023, déjà, on va commencer peut-être par poser le contexte pour après aller dans ce rendement. Dans le contexte, on a quoi? On a au fond un scénario où on va sans doute passer entre les gouttes de la récession, que ce soit en Europe, alors tout juste, hein, mais probablement, aux États-Unis et en Chine. Ce qui est marrant, après 14 mois d'anticipation de récession. C'est un peu ballot quand même. Puis, qu'est-ce qu'on a d'autre comme bonne nouvelle? On a la réouverture justement de la Chine, qui va forcément apporter sa pierre à l'édifice de la croissance mondiale et de la consommation, sans doute également. En tout cas, la fin de l'augmentation des taux, une inflation plus raisonnée, et la fin de l'augmentation des taux aux États-Unis, sans doute pour le deuxième semestre 2023. Donc voilà, si on plante ça, c'est le côté sympa. Et si on regarde le revers de la médaille, on a quand même quelques risques. Les risques de conflits armés, bon, ouais, ça.
Parce que pour le moment, c'est pas fini.
Alors, celui-là, je pense que je sais pas bien quand est-ce qu'il finira. Et puis, peut-être d'autres. On regarde du côté de Taïwan, par exemple. Ça, ce sont des points. Et puis, peut-être aussi que cette augmentation des taux, elle pourrait avoir un impact un peu différé dans le temps sur la consommation et la croissance. Et finalement, qu'on soit un petit peu moins au niveau croissance, un peu moins que ce qui était prévu aujourd'hui. Voilà. Ça donne le panel.
Ouais, mais ça donne pas très, très envie, quand même.
Alors, attention, parce que les marchés sont un peu décalés quand même par rapport à l'économie. Donc, regardez, en 2022, ça se passait plutôt pas mal. On a eu des marchés un peu pourris.
Ouais, d'accord.
On peut aussi considérer qu'on a un temps d'avance sur les marchés. Mais après, sur la question qu'on peut se poser aussi, quand on va chercher du rendement, est-ce que l'ESG, est-ce que ça va être notre martingale 2023? Alors, ça n'était pas en 2022. Déjà, je peux répondre sur la partie 2022, parce qu'en 2022, en gros, il fallait avoir de l'armement, de la défense et de l'énergie, mais plutôt fossile. Donc, on n'est pas très ESG.
Pour l'ESG, on repassera, oui.
Voilà, donc on n'était pas très ESG compatible. Est-ce qu'on peut...
Mais ça peut être une martingale, l'ESG, aujourd'hui?
C'est-à-dire que, potentiellement, si on regarde, par exemple, juste sur le niveau de l'Europe, il y a deux points qui pourraient nous laisser penser qu'on aura plus une martingale sur 2023. C'est quoi? C'est que cette guerre en Ukraine, elle a rappelé que l'Europe n'était pas très indépendante énergétiquement parlant, voire pas du tout. Alors, bien sûr, l'énergie renouvelable, créer des nouvelles centrales et ainsi de suite, ça va prendre un petit peu de temps. En revanche, là où on peut en avoir un impact plus rapidement, et on en a parlé il n'y a pas si longtemps ensemble, c'est la rénovation des bâtiments, puisque en France déjà c'est près un quart de la consommation énergétique Donc partant de là, s'il y a des fonds d'investissement, s'il y a de l'argent qui va sur cette thématique-là, elle est à la fois ESG compatible, elle peut apporter du rendement, et c'est le deuxième point. Pourquoi? Parce que les flux font souvent la performance. Donc, si beaucoup de personnes investissent dans un même domaine, il y a un petit effet boule de neige. Donc oui, sans être une martingale, ça peut cette année être un meilleur investissement que l'an passé.
Bon, donc on garde un beau filtre ESG tout de même, même si ce sera peut-être moins des moulins à vent que des bâtiments rénovés.
Oui, ça va être, ça sera sans doute un peu moins dans l'image d'Épinal, ça sera peut-être un peu moins ce qu'on a en tête, ouais.
Du coup, à travers ce filtre, qu'est-ce qu'on bâtit comme allocation pour être à l'aise sur l'année 2023, selon vous?
Alors, l'excellente nouvelle, si on veut être à l'aise sur le rendement et sur l'ESG, c'est qu'en fait, 80% des fonds distribués en France sont ESG compatibles maintenant.
Oui.
C'est vrai. Compliqué d'être en dehors de l'ESG quand même. Alors, si on regarde aujourd'hui, alors on est que le 17 janvier et on a déjà des marchés. Alors, certes, vous disiez tout à l'heure qu'il était un peu hésitant, le CAC, mais enfin.
Il est hésitant ce matin, mais il n'est pas hésitant depuis le début de l'année, oui.
Voilà. Et le tout avec quoi?
Il a déjà fait beaucoup mieux que le livret A qu'on évoquait à l'instant.
Alors, attention. Néerlandaise ne fait pas le printemps.
Non,
mais donc il faut forcément avoir un peu plus de prudence. Et donc je pense que je serai un peu plus prudente aujourd'hui que j'aurais été le 2 janvier parce qu'on a déjà cette hausse. Donc si on investit aujourd'hui, il est difficile de passer à côté du fonds euro malgré tout parce que c'est un réservoir de liquidité qui est pas si mal rémunéré.
Non, mais il faut pas bannir le fonds euro, mais il faut qu'il reste désormais à sa place, qu'il ne domine
20%.
Plus.
20%, voilà. Ça me paraît un fonds de liquidité qui est pas inutile. Vous connaissez notre petit credo sur les produits structurés de rendement qui ont quand même apporté du rendement en 2022. Ils n'étaient pas bien nombreux à le faire à part les produits type Phoenix, distribution de rendement coupon. Et cette année, sur ceux qu'on a sortis sur Alter Egal sur le premier trimestre, on est entre 5,20 et 8%. Avec une distribution trimestrielle, donc on est quand même sur un niveau un niveau de rendement qui est intéressant. Alors on n'est pas très ESG compatible là-dessus, mais parce qu'on est sur Stellantis par exemple, etc. Mais on est quand même pas si mal. Et puis après sur les allocations de fonds classiques, on va retrouver, y compris dans la prudence qui nous guide sur le début d'année, on va trouver du Lazard Patrimoine par exemple. C'est un fonds ultra prudent, 0 à 40% en action. Il est article 8, si je dis pas de bêtises. Voilà, article 8. On peut aller sur des fonds obligataires d'arbitrage type DNCA, Alpha Bond. Et là aussi, on sera article 8. Donc article 8, ça veut dire qu'on a quand même un biais ESG relativement fort. On aura bien sûr des actions parce que dans un univers où on pense que la croissance sera au rendez-vous et sans doute un peu meilleure encore en 2024 dans l'anticipation, il nous faut des actions quand même pour aller chercher de l'argent qui pâte l'inflation. Alors on aura des fonds actions internationales à peu près un quart de l'allocation. Mmh. Là on pourra aller de l'Asie aux États-Unis avec du Carmignac Investissement article 9. Bon, là, ça va être plus étonnant. Un fonds santé, par exemple, de JP Morgan Global Healthcare, article 8. J'aurais volontiers mis la santé en article 9, mais du coup, non, c'est 8. Et puis, un fonds OFI Invest Equity, US Equity, ou un fonds Richelieu America, donc même les États-Unis, vont être article 8. Ensuite, on va pas se passer des actions européennes malgré tout, hein, si c'est pas forcément notre dada sur 2023. Encore des actions bancaires. Alors, vous allez me dire, c'est pas très ESG compatible. Si, c'est le fonds Axiom, il est article 8 aussi. Donc, comme quoi, tout est un peu ESG compatible.
Finalement,
on s'en accommode pas mal. Et puis, pour faire écho, sans mauvais jeu de mots, à ce que j'indiquais tout à l'heure sur la transition énergétique, le fonds Sycomore Europe Eco Solutions. Alors, lui, il est quand même article 9. Hein, donc, on voit quand même quand il porte des vraies valeurs, on y est plus. Et puis, pour terminer cette allocation, il faut bien que ça fasse 100% à un moment ou à un autre. 5% sur les actions émergentes, plutôt la Chine, dont on attend quand même un regain de croissance avec cette ouverture. Et là aussi, que ce soit de la gamme JP Morgan ou d'autres, on va retrouver un article 8 sur la Chine, ce qui est quand même pas si mal. Vous voyez ?
C'est pas mal, ouais, de rentrer dans ces articles avec des actions chinoises.
Et ben voilà.
Et voilà, une idée d'allocation proposée par une CGP, Alter Egal, donc, et Géraldine Métifeux, qui nous accompagne très régulièrement. Le marché, lui, il continue son yo-yo dans une fourchette très étroite, nous disait il y a une poignée de minutes Gilles Santacreux chez Boursicoté. On est à 7081, juste sous le niveau de clôture d'hier soir. On laisse filer 0,01%.
BFM Business, BFM Patrimoine, la sélection.
Et oui, comme chaque mercredi, l'heure de gérer la sélection avec deux gérants en plateau. Jean-François Gilles, bonjour Jean-François.
Bonjour Cédric.
Pour Erasmus Gestion. Et François Chollet pour Montségur Finance. Bonjour François.
Bonjour Cédric. Bonjour Jean-François.
Merci à tous les deux d'être là. Et on va commencer par un petit point pédagogie avant de rentrer dans la mécanique de marché sur notre sélection. Depuis toutes ces années où on gère ensemble, on avait pris comme mantra de ne pas appliquer les dividendes. Et en échange, on n'appliquait pas de frais. Bon, les marchés ont vécu l'histoire qu'ils ont vécue, les choses changent et on a eu pas mal d'auditeurs qui suivent la sélection et qui nous ont un peu reproché tout ça. Alors vous avez discuté, tous les quatre.
Il y a eu effectivement alors pas forcément des reproches, mais nous, on a
non,
eu
mais des étonnements. De des... Ouais, et puis
on
vous,
a eu
ça.
Des titres, voilà. Qu'on a vendu parce qu'on savait que si on gardait le titre et au moment du détachement du dividende ou d'une opération un peu exceptionnelle, d'attribution d'actions gratuites, tout ce qui est détachement d'une rémunération pour l'actionnaire, on ne le tenait pas dans les comptes au niveau de la performance. Or, c'est quand même quelque chose qui est significatif. Et l'exercice 2023, c'est l'exercice de la distribution des profits de 2022. Ceci étant record, on sait que 2023 va être une des plus belles années de distribution de dividendes toute forme, je dirais, de distribution confondue, parce qu'il y a les dividendes, il y a les rachats d'actions, quelque chose qui s'est beaucoup pratiqué et qui continue à se pratiquer de plus en plus, notamment dans les entreprises qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup d'investir pour assurer leur croissance. Les attributions, comme le fait Air Liquide régulièrement, d'une action pour 10 détenus dans un cas d'une opération sur titre. Bref, on a pas mal de choses qui se mettent en œuvre, mais surtout, ça va représenter des montants historiques. On va approcher, entendez-moi bien, pour le CAC 40, le montant de la totalité des bénéfices de 2007. C'est-à-dire qu'on tangente, en versement de rémunération à l'actionnaire, la totalité de ce que représentaient les bénéfices en 2007, lorsque les marchés étaient au précédent sommet que nous
Et donc, du coup, on amende notre mandat de gestion.
Et donc, il est temps d'amender pour cette raison. Pour une raison aussi, c'est que on n'aura plus forcément de biais de gestion. C'est-à-dire qu'on pourra se permettre d'avoir des entreprises qui détachent ces nouveaux dividendes, parce que quand on est actionnaire, la rémunération par le biais du dividende, c'est un facteur, on va dire, de convexité. C'est des titres qui, généralement, dans les phases de repli, ont tendance à faire un peu mieux, parce qu'ils portent quasiment de manière intrinsèque un caractère un peu obligataire dans leur comportement boursier.
Donc, aujourd'hui, on prendra en compte toutes ces opérations.
Alors,
et
on va faire
en échange, voilà. Expliquez-nous pédagogiquement un petit peu, que chacun sache où il met les pieds.
On va se comparer, évidemment, par rapport à un indice avec les dividendes réinvestis. Deux, on va intégrer les versements de dividendes dans les calculs de performance que nous allons faire sur le portefeuille. On va prendre en considération, pour les auditeurs et téléspectateurs, des frais qui représenteront des droits de garde ou des frais de transaction. On est parti sur une base de 1% par an qui nous paraît raisonnable par rapport aux tarifs que l'on peut trouver aujourd'hui auprès des établissements bancaires, mais aussi des banques en ligne ou des sites de courtiers sur Internet pour passer des ordres de bourse. Bref, 1% nous paraissait raisonnable. Donc on appliquera 1% de décote à notre performance sur une base annuelle pour refléter les frais qu'auraient les gens qui continueront à vouloir reproduire la sélection dans leur portefeuille, leur PEA, puisqu'elle est éligible au PEA.
Voilà donc l'évolution majeure de ce début d'année. Et du coup, de ce choix, que vous partagez aussi, Jean-François, parce que vous étiez un peu l'historique de la bande après le portefeuille de Patrick Le Guil et de Jean-Pierre Gaillard, et c'était de là aussi qu'était venue cette non-prise en compte des dividendes et,
c'est vrai, ce qui est bon, c'est l'équilibre en fait qu'il faut préserver entre le reflet de notre performance et celui que les investisseurs qui nous écoutent peuvent avoir dans leur portefeuille. Et dans le sens où on inclut les dividendes, mais par contre on retire des frais, bien cet équilibre est respecté.
Et du coup, vous le dites, ça peut libérer un petit peu la gestion. Et ce matin, vous avez décidé d'une entrée qui en plus va résonner avec
C'est une illustration spectaculaire qui ne reflète quand même pas la distribution de l'ensemble des sociétés que nous avons en portefeuille.
Mais en tout cas, on le fait sans regret, parce que on ajuste aussi notre façon de gérer.
Nous entrons en portefeuille ce matin, enfin demain matin plus exactement, une entreprise qui a, pour 2022, l'annonce un dividende de 13%. Vous vous rendez bien compte que auparavant nous n'aurions pas pu le faire. Et effectivement, la distribution de cette entreprise devrait un petit peu diminuer l'an prochain. Elle serait quand même autour de 9%. Cette entreprise, c'est ALD. C'est le principal loueur de flotte automobile de longue durée en Europe, qui va devenir encore plus gros, puisqu'il est en train de fusionner avec le numéro 2, qui s'appelle LeasePlan, qui est un néerlandais. Alors, ALD appartient à la Société Générale.
C'est une intro, entre guillemets, récente.
C'est une acquisition d'il y a 2 ou 3 ans. Et par contre, l'accord avec LeasePlan, il est de l'an dernier. Et on avait des petites craintes là-dessus, parce que le Covid a entraîné beaucoup de perturbations, aussi bien chez les constructeurs que pour la location. Et notamment, et tous les Français le savent, sur le prix des voitures d'occasion. Et là, les choses semblent aller dans le bon sens, en ce sens que les fabricants se détournent un peu de la fabrication de la voiture de masse pour aller vers la fabrication du haut de gamme, ce qui a fait monter beaucoup les prix des voitures du bas de gamme et du milieu de gamme, ce qui avantage ALD, qui garde ses voitures 4 ans en général. Après, il les revend, et évidemment, revendre aujourd'hui, quand on a acheté il y a 4 ans, ça représente une aubaine par rapport à ce qu'on avait dans ses comptes.
Oui, bien sûr.
Et le deuxième élément, qui est une bonne nouvelle du mois de janvier, c'est que dans le cadre de la fusion avec LeasePlan, la Commission européenne avait mentionné un risque de part de marché trop importante, eh bien, avait demandé donc à ALD de vendre les filiales de LeasePlan dans 6 pays européens. Et la bonne surprise, eh bien, c'est qu'il y a deux acheteurs, en fait, pour les filiales dans ces pays, qui sont, comme par hasard, le Crédit Agricole et la BNP. Ah. Donc, bon, il vaut mieux en avoir qu'un quand on vend deux, il vaut mieux avoir deux acheteurs qu'un seul. Et donc, on peut penser que ALD va tirer un plan.
Bon prix du coup, en plus de ces cessions obligatoires. Convaincu aussi?
Alors, c'est un dossier qui, par ses caractéristiques de distribution de dividendes, figure dans notre sélection dividendes. On a un fonds chez Monségur qui privilégie des entreprises qui distribuent des dividendes. Mm-hmm. Et donc, il fait partie de cette sélection-là. Donc, quand on a posé la question sur ALD, la réponse a été de mon côté assez rapide.
Assez rapide.
Puisque c'était un dossier qui était chez nous, qui avait déjà un beau parcours. Hein, faut pas. On a déjà un beau parcours sur ALD, mais c'est vrai que c'est des entreprises qui sont devenues stratégiques pour la Société Générale. C'était quelque chose qui était un peu anecdotique il y a quelques années quand ils sont rentrés sur ce métier, mais c'est devenu quelque chose d'assez stratégique. Ils veulent prendre une position dominante sur le marché européen d'un mode de consommation de l'automobile qui est quand même celui du futur.
Oui. 21 milliards de chiffre d'affaires.
ALD, donc, qui rentrera au cours d'ouverture. Ça, la règle n'a pas changé. Hein. On bouge sur les dividendes, mais le quantum quotidien ne change pas. On rentre et on sort au cours d'ouverture du lendemain de la décision. Ça vous laisse tout le loisir, finalement, d'opérer dès que l'annonce est faite pour répliquer donc les mouvements à l'intérieur de cette sélection. Si on élargit un petit peu, quand même, regardons les marchés, le comportement de la sélection, qui est plutôt pas mal, et du coup, cette question: est-ce que on voit les choses trop en rose en ce moment, Jean-François?
Trop en rose. On les voit en rose, effectivement, sur la base d'un ralentissement de l'inflation, en particulier aux États-Unis. Ralentissement de l'inflation associé avec un ralentissement de la croissance, ce qui fait penser aux investisseurs que la Federal Reserve, la Banque Centrale Américaine, sera peut-être moins agressive qu'on le craignait au cours de cette année. Alors nous verrons déjà peut-être un peu plus clair ce soir.
Oui, bien
on
sûr.
Va voir, la décision, elle est à peu près connue, une hausse des taux de 25 points de base.
Le discours qui...
Mais le discours sera très important. Et si on a, dans un discours de Monsieur Powell, moins agressif, bien entendu, on n'attend pas à ce qu'il annonce qu'il va baisser les taux à la fin de l'année, on n'attend pas ça. Mais simplement moins agressif, je pense que le niveau actuel peut être soutenu.
François, on voit trop les choses en rose ou pas?
Alors, côté européen, on n'a pas tout à fait... Alors, je partage la vision de Jean-François sur les États-Unis. Sur le côté européen, on n'a pas fini les hausses de taux.
Non.
Et c'est demain, le calendrier...
Grosse semaine, puisqu'on a la Fed aujourd'hui, la BCE demain.
C'est cela. Et donc, demain, ça va être un sujet. Mais en Europe, on n'a pas non plus obtenu les mêmes satisfactions à regarder les chiffres de l'inflation baisser significativement. Alors, des points d'inflation, on les a vus, le rythme de cette hausse d'inflation, mais c'est la dérivée seconde. On n'a pas le retournement franc et massif qu'on a connu encore, en tout cas, en Europe, tel qu'on l'a aux États-Unis. Et d'ailleurs, on a eu des chiffres sur les salaires aux États-Unis qui corroborent encore un peu et qui viennent soulager un peu la pression sur la Réserve fédérale américaine. Je ne crois pas que demain, avec Madame Lagarde, on ait un discours qui soit très accommodant. Faut être clair, elle n'a pas fini son travail, elle n'a pas obtenu encore les résultats qu'elle souhaite avoir sur les chiffres de l'inflation et sur les anticipations d'inflation à long terme sur le marché. Donc il faut s'attendre, mais c'est quand même intégré aujourd'hui, et notamment intégré dans un des paramètres, c'est que les valorisations européennes sont encore raisonnables. Si le scénario n'est pas celui d'une récession, mais d'une croissance réduite, mais malgré tout une croissance, il n'est pas certain qu'on ait à réviser drastiquement les profits 2023 par rapport à 2022, qui était encore une fois une année record. Et donc ça veut dire que le marché européen n'est pas si chèrement valorisé que ça, dans le contexte actuel. Donc on a un rallye puissant, on a des investisseurs qui ne sont pas toujours massivement exposés, on a encore beaucoup de couverture et de liquidité dans les portefeuilles. Il y a la crainte de passer à côté de la suite de l'histoire, parce que si on a un premier semestre avec un ralentissement modéré, et notamment lié au fait de la reprise de la consommation chinoise, qui était un vecteur de croissance qui nous a malgré tout fait défaut en 2022, on n'est pas à l'abri non plus d'avoir des surprises du côté des marchés.
Et du coup, ça fonctionne bien du côté de la sélection?
Ça fonctionne bien, en effet. Elle est en hausse de 9,65%.
Vous rendez compte,
on est le 1er février. c'est tout à fait exceptionnel d'avoir un mois de janvier.
On ferme la boutique finalement et...
Bah, on pourrait partir en vacances, oui, c'est vrai. Mais bon, après tout, on n'a pas été brillant l'an dernier, donc c'est du rattrapage, et c'est tant mieux. Et nous sommes, pour autant, avec cette performance, qu'investis à 90%. Ce qui veut dire que la sélection de titres a été particulièrement pertinente. Je vois par exemple que nous avons comme fleuron ST Micro qui est en hausse de plus de 30% depuis le 31 décembre.
Bon, il y en a qui font moins bien aussi. Hein. Il y a Engie notamment, qui est un peu le vilain petit canard. Satisfait aussi du choix des titres
Alors, on a pour habitude d'être satisfait quand on a fait gagner de l'argent sur longue période à nos clients. Oui. L'année dernière a été une très mauvaise année. On ne fait que compenser une bonne partie des pertes de l'année dernière. Alors, c'est vrai que ça fait toujours plaisir et ça nous rassure. Il n'empêche, en notre métier, on est là pour essayer de faire gagner de l'argent à nos clients et préserver leur épargne. Donc, je serais bien plus satisfait si on continue sur ce chemin, même si ça ne sera pas une ligne droite en 2023. Mais quand même, on a encore un peu de potentiel.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc, on rappelle deux informations importantes concernant cette sélection cette semaine. D'abord, le changement dans le mandat, puisqu'on prendra désormais en compte les dividendes et qu'on appliquera 1% de frais sur la performance annuelle. Et puis, une entrée, ALD, qui fera son entrée demain matin au cours d'ouverture et qui réduira donc la part de liquidité qui était disponible pour le moment dans la sélection. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-François Gilles, donc, Erasmus Gestion, François Chollet, Montségur Finance.